se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 8h08, le retour de votre week-end des experts. On est là jusqu'à 10h, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas si vous venez d'arriver chez nous et merci de nous avoir choisis, sincèrement. Jusqu'à 10h, donc vous le savez, c'est votre week-end des experts. Tout à l'heure, entre 9 et 10, on retrouvera la vie numérique avec Raphaël Grably. On va parler des VPN. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le VPN? On va tout vous expliquer. Et puis, si vous êtes étudiant, on vous aidera à trouver un logement rapidement, à quelques jours de la rentrée universitaire. Et vous verrez qu'il y a pas mal d'outils maintenant, hein, et pour certains assez nouveaux, des applis, des sites internet, des réseaux sociaux, etc. On fera le point avec Raphaël et nos invités. Mais dans l'immédiat, c'est la forme et la santé, c'est avec, évidemment, Christian Recchia. Bonjour docteur.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être là. Les sujets aujourd'hui sont très importants, comme d'habitude, et nous allons évoquer le sport, nous allons évoquer le thermalisme.
Le thermalisme.
Oui, c'est oui. Très important, on pourrait rester une bonne dizaine d'heures sur le thermalisme, tellement c'est riche. Et voilà, nous allons avoir un grand spécialiste à nos côtés pour échanger.
Et puis, si on a un peu de temps à la fin, bon, on va essayer de se garder quelques minutes, on évoquera cette nouvelle mode incroyable auprès des jeunes, c'est ce fameux gaz hilarant.
Le protoxyde d'azote, c'est incroyable.
Voilà, protoxyde d'azote,
incroyable.
Un gaz qu'on trouve
une
très facilement à l'achat. Hein.
Une grande alerte pour nos grands-parents, nos parents qui ont des enfants jeunes et qui ne se rendent même pas compte du drame.
On en parle tout à l'heure. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, bien sûr, si vous voulez poser vos questions au docteur Christian Recchia, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Le 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Mais pour débuter, Christian, comme chaque semaine depuis mi-mars, même peut-être un peu avant, on va faire un point sur cette épidémie de coronavirus. Avec, pour commencer, le ministre Jean-Michel Blanquer qui vient d'annoncer que 22 établissements scolaires, 12 en métropole et 10 à l'île de la Réunion, hein, qui est aussi fortement touché par cette épidémie, ont été obligés de fermer.
Et oui, nous avions commencé, François, à évoquer Covid milieu janvier, donc nous avons beaucoup anticipé la situation. Nous avions également ensemble prévu qu'il fallait des masques, alors que nous étions contre vents et marées. Nous sommes, et je suis vissé sur la certitude qu'il faut des masques lorsque nous sommes à l'intérieur. Je vous en supplie, faites-le, parce que l'objectif est évidemment de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont positives. Si ces personnes sont jeunes, ils vont avoir finalement des signes dits banaux et ils vont voir la pathologie s'en aller assez facilement. Cependant, pour toutes les personnes de plus de 55 ans, 60 ans et plus, eh bien, les risques sont quand même notables. Donc, soyons vigilants. Je m'adresse là maintenant aux personnes qui ont plus de 60 ans. Évidemment, là, à l'extérieur, c'est obligatoire. Dans un magasin, c'est obligatoire. Et même à l'extérieur, quand vous vous sentez en ville un petit peu aérée avec très peu de gens autour, nous voyons en ville des personnes qui ont des masques en dessous du nez, en dessous du menton. Non, les masques, quand vous avez plus de 60 ans, c'est malheureusement tout le temps. C'est pénible, c'est comme ça, mais s'il vous plaît, préservez-vous, car ça permettra de ne pas engorger les hôpitaux et l'AREA. Et en hôpital, aujourd'hui, nous avons finalement très peu d'hospitalisations majeures. Il y a, heureusement, que 9 personnes en réa, quand on fait le solde, qui sont rentrées en plus. Donc, pour l'instant, c'est plutôt contenu. Et nous attendons les 3 prochaines semaines avec impatience.
Pour voir comment ça évolue, c'est ça.
On baisse les chines, on tend le dos, on essaye. Mettez des masques, soyez vigilants, lavez-vous les mains. Le gel hydroalcoolique, c'est le plus souvent possible. Et pour les enfants, et là, je réponds à votre question, François. C'est que pour les enfants, là où je ne suis pas d'accord, et je disais que très souvent, hein, j'étais contre le gouvernement parce qu'il n'allait pas assez loin, pas assez fort. Et là, pour les enfants, pourquoi les enfants de 11 ans doivent mettre des masques et pourquoi les enfants, finalement, de 10 ans et 11 mois ne mettent pas de masque? Pourquoi les enfants, finalement, à 8, 9 ans, quand ils sont déjà plutôt responsables? Moi, je vois mon merveilleux Vittorio, il a 8 ans, il est tout à fait capable d'avoir un masque régulièrement. Et puis, alors là aussi, j'ai observé plusieurs écoles cette semaine, c'est que la sortie des écoles est un véritable désastre parce qu'on a des enfants qui sont contenus, les enfants n'ont pas forcément les mains lavées. Enfin, il y a de la part des parents, une grande rigueur à avoir vis-à-vis des enfants. Alors il faut se relâcher, hein. On va pas non plus vivre que sur ce phénomène-là, mais véritablement plus d'hygiène, plus de distance physique, les masques autant que faire se peut.
Dans la rue, parce qu'on voit qu'il y a des arrêtés qui sautent. Enfin, il y a des choses quand même, hein, concernant Barin, Lyon.
Oui, ça, ce sont des jugements qui pour moi n'ont pas de valeur concrètement.
Mais Christian, c'est vrai qu'on peut se poser la question tout à l'heure. Par exemple, bon, évidemment dans notre entreprise, on est obligé de porter le masque. Moi, j'arrive à 5h30. Je suis dans des open space qui sont vides, il n'y a personne.
Vous avez 500 mètres carrés devant vous.
J'ai 500 mètres carrés devant moi. Après, c'est du bon sens. Est-ce qu'on peut se dire, bah tiens, à ce moment-là, ça sert à quoi de porter le masque? Et on peut se dire la même chose si on est en pleine rue, voilà, si on est en train de marcher et qu'il n'y a personne autour de nous, est-ce qu'on est malgré tout obligé de garder le masque?
Là, évidemment, vous avez raison. Le seul souci, c'est de se dire quand nous sortons dès 7h du matin, dès 8h du matin, où nous sommes en ville, là évidemment, le masque est important. Mais quand on est à la campagne, quand on est à Tuilly-aux-Groseilles, ou quand on est en Bourgogne, dans le Morvan, et qu'il n'y a personne dans le village, évidemment, là, le masque ne se pose même pas. Mais en revanche, quand une municipalité dans l'Est, en Alsace, où une municipalité, une grande ville comme Lyon, décide finalement de ne pas forcément obliger le masque, je trouve que c'est une faute, parce que concrètement, pour l'instant, on ne sait pas comment va évoluer cette vague. On ne sait pas. Donc, il faut être plutôt professionnel, il faut être plutôt tenu, et puis, je vais vous dire, le peuple français a souffert beaucoup plus que ça, et c'est pas la prise d'un masque qui doit, je dirais, empêcher les gens de vivre. Maintenant, un point est certain, c'est le vaccin. Une petite nouvelle, dans The Lancet, on a compris que le vaccin russe est un vaccin qui permet de fabriquer plus d'anticorps que la maladie elle-même. Bon, The Lancet, c'est quand même sérieux, hein. Quand on a un article dans The Lancet, ça veut dire que la commission vous a quand même plus que regardé, et à la virgule. Donc, ce qui veut dire que c'est plutôt positif. Donc,
parce que pas mal de gens se moquaient un petit peu de cette
initiative
russe.
Oui, alors on se moque toujours de Poutine. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'estime pour notre peuple russe, qui est un peuple européen très très proche de nous, que d'autres. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, oublions Poutine, voyons ce que ces scientifiques russes réalisent d'une façon froide, et bien nous constatons qu'avec un article dans The Lancet, il y a une efficacité du vaccin, et ils vont pouvoir sans doute vacciner à partir de janvier.
Ils auront terminé toutes les phases.
Alors évidemment, il y aura le grand sacerdoce de l'OMS en disant les phases n'ont pas été réalisées dans la linéa.
Est-ce qu'il y a de graves risques pour la santé si on rate un vaccin?
Apparemment, là, il n'y a pas de complications notables observées. Donc ça, c'est quand même un élément positif. Évidemment, c'est toujours plus confortable d'attendre un an de plus pour voir ce qui se passe. Mais là, compte tenu de la situation économique et des situations psychologiques, économiques et physiologiques, je dirais qu'un vaccin le plus tôt possible sera le bienvenu. Et même s'il est russe, même s'il a 3 mois d'avance sur celui de Trump, tout ça est un combat géopolitique.
Voilà. Au moins, là, il y a une compétition saine entre tous les États, les continents, pour essayer d'avoir un vaccin le plus efficace, le plus rapidement possible.
Je nourris l'espoir que la France puisse être parmi les leaders et qu'on puisse avoir en mars un vaccin à distribuer afin qu'en septembre 21, la rentrée des classes se fasse complètement normalement.
Dans un instant, Christian, on va parler des enfants et du sport, mais on se rend compte que finalement, lorsqu'on est dans des sports collectifs, eh bien, il peut avoir des cas de contamination. On l'a vu avec les joueurs du PSG,
lamentable
après ceux de l'OM
situation
cet été.
Oui, oui.
Finalement, est-ce que les sports co sont pas, disons, vecteurs de cette maladie, et qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Alors, c'est pour cela que nous avons décidé avec toute l'équipe de faire cette émission en ordonnance sur le sport, parce qu'évidemment, nous constatons aujourd'hui la France est devenue un pays moins sportif à l'école. Les moyens donnés pour le sport ont diminué. Moi, j'aurais souhaité que s'il y a 12 millions d'enfants à l'école, qu'il y ait 12 millions d'enfants à l'Union nationale du sport scolaire. J'aurais aimé que Christophe Luxac et Charles Kachema puissent promouvoir l'UNSS d'une façon majeure. Mmh. Mais aujourd'hui, pendant encore un an, la psychologie des parents, c'est de se dire, eh bien, il y a le Covid, je ne vais pas inscrire forcément mon enfant dans une fédé ou à l'UNSS. Moi, je pense le contraire. Je pense que à l'UNSS, on peut faire de l'athlétisme, ce qui est un sport individuel. On peut faire du tennis. On peut faire des tas de sports où finalement le contact n'est pas nécessaire. Et même quand on est rugbyman, ce que disait notre ami que nous allons recevoir au téléphone maintenant.
Il est là, Thibaut Rousseau est avec nous.
Absolument. Hein. Thibaut, il est là avec nous?
Oui, il est avec nous.
Ah ben
nous.
Parfait.
Bonjour
Thibaut. Je vous salue.
Bonjour. Bonjour François, bonjour Christian.
Vous êtes professeur de PS en collège.
Un très grand monsieur. Exactement. Que j'apprécie énormément parce qu'il a une très belle vision.
Et vous êtes dans le Val-de-Marne, hein?
Oui, exactement. Merci beaucoup. Oui, je suis professeur de PS au collège Charcot à Joinville-le-Pont.
D'accord.
Donc en collège, avec des enfants donc qui ont entre 11 et 15 ans.
Alors Thibault, vous avez comme tout le monde, enfin comme beaucoup, attaqué votre entrée. Il y a 10 jours maintenant, c'est ça à peu près?
Un peu moins. On vient de terminer la première semaine.
Comment se sont passés ces premiers cours de PS?
Bah ils sont bien passés. C'est parce qu'il a fallu qu'on s'adapte pour mettre en place ces différents protocoles, en fait. Aujourd'hui, avec la situation, on sait qu'on peut pas pratiquer comme c'était le cas il y a 6 mois. Maintenant, le but, c'est quand même de permettre aux enfants de pratiquer de l'EPS, d'avoir une activité sportive. Donc, nous, on a pu mettre en place cette semaine au sein du collège, et c'est le cas dans tous les autres établissements de France, une EPS qui est adaptée aux conditions dans lesquelles on est. On a des protocoles qu'on doit respecter, qui viennent à la fois du ministère, évidemment, qui viennent de la ville, parce que c'est la ville qui gère les installations sportives. Et puis, on a aussi des protocoles internes à l'établissement où on se donne une démarche à suivre.
D'accord.
Alors, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au fond, ma mission en tant qu'ambassadeur, c'est de vous dire, à l'UNSS, c'est de dire aux parents, s'il vous plaît, inscrivez vos enfants à l'UNSS. Mon second rôle est de dire que les fédérations, François, ont imaginé des protocoles, même dans le rugby, où finalement on peut faire un sport co, mais la préparation physique permettra de préparer les enfants et de mettre l'enfant dans une dynamique sportive. Le vrai souci, François, c'est que nous avons des enfants de la 6e à la 2e qui sont potentiellement à faire du sport, et nous perdons des filles et nous perdons des garçons à partir de la 2e parce que le côté sérieux des études commence. Et moi, ce qui m'agace, et merci François, merci à toute la production d'avoir accepté ces dizaines d'émissions que j'ai fait sur ces quelques années sur le sport, parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le sport n'est pas intégré dans l'éducation nationale à la hauteur des mathématiques, de la physique, du français, de l'histoire géo et de la culture. C'est pareil.
Mais
je peux vous dire.
Christian, pas la peine de vous.
C'est agaçant, finalement, de devoir répéter les choses avec des promesses de ministres incohérents et incompétents.
Thibaut, vous êtes d'accord avec Christian? Vous pensez qu'il n'y a pas assez de sport à l'école?
Alors, ce qui est certain, c'est que la population française, globalement, mériterait de pratiquer davantage de sport. Ça, c'est une certitude. L'autre certitude, c'est qu'aujourd'hui, on a le niveau physique, si vous voulez, des enfants, qui a été forcément un petit peu dégradé par la période qu'on a vécue. Il y a un besoin nécessaire pour les enfants de pratiquer une activité physique. On peut le faire, en fait, parce que maintenant, justement, avec tout le respect des protocoles, on commence à avoir l'habitude, et il y a un très lourd travail qui a été fait et qui est mis en place, que ce soit dans les équipes EPS des établissements scolaires pour accueillir les enfants en EPS ou dans les AS à la fédération de l'UNSS. Et c'est pareil même dans le milieu associatif et dans le monde fédéral. Il y a un gros travail qui est fait pour accueillir dans de bonnes conditions, dans quasiment toutes les fédérations. Je pense à la Fédération française de judo, par exemple, où ils ont mis en place un protocole qui permet aux enfants de venir dans les clubs faire du judo. Donc le mot d'ordre, à mon sens, c'est vraiment d'aller vers cette pratique. On le fait. Il y a eu énormément d'initiatives des professeurs d'EPS qui ont été mises en place pendant le confinement pour permettre une activité à domicile. Et maintenant, il faut retourner sur le terrain. Il faut que les enfants soient en activité.
Et pour prendre une vision haute et sur le temps long, Il ne faudrait pas que cet épisode Covid soit le début d'un effondrement de l'activité physique en France, parce que de toute façon, nous avons des filles qui, à 17 ans, arrêtent le sport quasiment définitivement pour leur vie. Et nous sommes un des rares pays à ne pas avoir une dynamique. Car, Madame la Ministre, gérer les Jeux Olympiques de 2024, c'est très bien, mais ce qu'il faut, c'est gérer l'état d'esprit, la fonction de l'activité physique en tant que jeune. Et le sport commence à 3 ans et continue pendant l'université. J'ai autour de moi, quand j'étais en médecine, on ne cessait pas de faire du sport. J'ai une dizaine de copains autour de moi qui sont toujours des amis. On a tous fait médecine. On n'a jamais été en dessous de 5 heures de sport par semaine alors qu'on préparait médecine. Et j'ai eu beaucoup d'élèves à Normale Sup, à Centrale Paris, à HEC. Il y avait de grands sportifs. C'est pas parce qu'on fait des études qu'on doit s'arrêter de faire du sport. C'est ça l'idée générale. Et on n'a pas les moyens de le faire. C'est un moyen psychologique et politique, et je regrette qu'à UNSS, il n'y ait pas plus de dynamique que ça.
Christian et Thibault, est-ce que les installations suivent?
Oui, c'est merveilleux, oui. C'est merveilleux ce qu'il y a en France, il faut voir.
Thibault, on laisse peut-être parler notre invité, Christian.
Non, mais exactement, en France, on a la chance d'être doté de beaucoup d'installations sportives. Alors évidemment, il y a des contextes locaux dans lesquels c'est plus difficile d'y avoir accès, mais d'une manière générale, on peut dire qu'on est un pays dans lequel on peut pratiquer beaucoup de sport, on a accès au sport. Ça, c'est une évidence. Après, moi, il y a un aspect que je voudrais développer, c'est surtout que le sport, lorsqu'on le pratique, ça permet de non seulement de booster ses défenses immunitaires, ça permet de lutter contre le stress, ça permet de créer du lien social. Et ça, c'est quand même des choses dont on a beaucoup besoin en ce moment, à mon avis.
Eh oui.
Donc, d'où le sens de remettre les enfants en activité. Encore une fois, quel que soit le moyen d'y parvenir, mais ou la structure qui va les accueillir, mais on a les installations sportives et on a les moyens de faire pratiquer les enfants. Donc voilà, la dernière chose qui reste à faire, c'est d'amener les enfants dans les structures.
Pour terminer, tiens, on a le témoignage de Benjamin sur Direct Studio qui nous dit: j'ai la chance d'avoir un enfant de 12 ans qui aime faire du sport, il fait du judo, il fait du foot. Il a repris les deux cette semaine. Les deux licences plus les équipements, parce que ça grandit à cet âge-là, hein, c'est vrai, à 12 ans, il y en a quand même pour 800 euros, c'est pas la portée de tout le monde. Le sport est devenu un luxe, c'est plus un loisir banal. C'est vrai que bon, il faut un budget là, typiquement le fils de Benjamin, judo et foot, ça coûte cher.
Alors oui, après la réalité du coût des licences, il est très variable en fonction des zones dans lesquelles on est.
Non, mais je pense qu'après il y a les équipements aussi.
Il y a les équipements, mais il y a quand même des moyens. On prenait l'exemple de l'UNSS, là, c'est le sport scolaire, ça se fait au sein des établissements.
20 euros par an.
Non, c'est alors la licence, voilà, c'est entre 20 et 30 euros, et dans ces 20 ou 30 euros, vous avez quand même tous les entraînements qui sont compris. On les accompagne aux compétitions. Et on leur fournit tout le matériel pour pratiquer. D'autre part, si vous êtes sur des je prends l'exemple, on parlait du judo pour le fils de Benjamin, les clubs de judo sont souvent à même de prêter un judogi s'il y a besoin. Enfin, d'accord. Dans la majeure partie des clubs, on peut prêter du matériel si ça pose problème. Pour permettre aux enfants de pratiquer.
Merci.
Globalement, les enfants sont les bienvenus quand même.
Merci beaucoup, merci Thibault.
Merci Thibault. Merci infiniment.
Je vous en prie.
Vive le sport.
Vive le sport.
Vive RMC.
Ah ben voilà, très
bien. La radio de la prévention et du sport.
Je croyais que vous alliez dire vive Claire Navarro. Là, vous hésitez quand même.
Elle a un visage extraordinaire visage.
Ça va, vous rattrapez bien. On retrouve Claire tout de suite pour la météo et on revient avec Christian dans une minute.
RMC.
Oui, il y a un embouteillage au bambouillonnant, là, monstrueux, là.
Je suis épuisée. Moi, j'ai fait sophrologie, boule marine, hydromassage, pédiluve, j'en peux plus, quoi.
Votre forme.
Ça vous fait du bien, hein?
Ah ouais, ça me fait du bien.
Tous ces jets, tous ces soins, ça réveille les sens, un peu, là. Ça tonifie le corps. Hein.
Ah, c'est brûlant! C'est brûlant!
Je sais pas quoi prendre, Jojo. Là, je suis largué, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Fais pas faire une irrigation colonique.
C'est quoi, ça, une irrigation colonique?
François Sorel.
Christian Vecchia.
Ah, Christian, on y est là. L'ambiance, c'est là. Regardez.
L'ambiance est là.
On est en peignoir, tous les deux.
On est complètement... En cours.
Alors, vous prenez
soin.
Quoi? Vous prenez le jacuzzi ou les massages avec les petits jets?
Moi, je commence déjà par nager un peu.
Un petit peu nager.
Ah, voilà. Et après, je sais qu'en France, il y a un grand nombre d'établissements, un grand nombre de centres capables de soigner très sérieusement des maladies et accompagner les soins de pathologies. Et nous avons un invité Monsieur
Jean-Marie Cousin est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur général de la chaîne thermale du sommeil.
Du soleil.
Du soleil, parce que le sommeil, alors, c'est pas ça, hein, du tout.
Oui. Alors,
je me disais aussi, alors peut-être que le sommeil est important dans la thérapie, je ne sais pas.
Alors, dans la chaîne thermale du soleil, que faites-vous particulièrement? Donc, vous êtes le directeur général, vous avez combien d'établissements?
Alors, je suis plus particulièrement directeur des opérations de la chaîne thermale du soleil, et nous avons 21 stations à travers le pays.
D'accord. Une cure, ça fonctionne comment? Et vous soignez quel type de pathologie?
Alors, une cure thermale, ça fonctionne sur la base d'un séjour de 3 semaines.
Oui.
Et cette cure thermale, elle est prescrite le plus souvent par un médecin traitant ou un médecin spécialiste qui suit son patient à longueur d'année. Et donc, il va lui prescrire, si cette hypothèse est pertinente en fonction de sa pathologie, il va lui prescrire une cure. Donc dans des indications qui pourront être aussi variées que la rhumatologie, les voies respiratoires, la neurologie, la dermatologie. Il y a une douzaine de grandes orientations thérapeutiques qui sont soignées en France. Voilà. Alors, si effectivement le médecin formule une demande d'entente préalable dans le cadre de ces orientations, il peut y avoir à ce moment-là une prise en charge au niveau des soins qui sera délivrée par l'assurance maladie.
D'accord.
Très bien.
Et alors, l'assurance maladie, les aides là, Christian, comment ça fonctionne en fait? Quel est le parcours en fait de quelqu'un qui veut faire une cure thermale comme ça?
Alors, vous me posez la question, on va prendre un exemple précis. Quel est aujourd'hui l'établissement qui a une action sur les fonctions rénales par exemple? Qu'avez-vous comme exemple de parcours de soins pour une personne qui a une fonction rénale à réguler et à soigner?
Alors, nous avons 2 stations qui assurent ce type de soins, donc la station de Gémy-les-Bains et également la station de La Preste, qui est, je dirais, vraiment très spécialisée dans ces pathologies.
Et là, le parcours de soins pour un patient qui arrive, d'abord ça dure 3 semaines, c'est bien cela?
Alors, effectivement, il va arriver dans nos stations, donc évidemment en réservant, je dirais, sa période de cure préalablement. Et donc, la première des choses en arrivant, c'est de rencontrer un médecin thermal qui, lui, bien évidemment, est bien au fait de nos pratiques, hein, des différents soins qui sont disponibles sur l'établissement en fonction de la pathologie, qui est évidemment aussi au fait des contre-indications éventuelles par rapport à la cure ou par rapport à certains types de soins. Et donc, il va dessiner, en fonction des besoins du patient, quel sera son parcours de soins, quels seront les soins précisément. Et ensuite, effectivement, le patient va arriver au sein de nos services afin que nous organisions son parcours de soins quotidien. Il va effectuer 4 à 6 soins par jour durant ces 18 jours de cure.
Et ces soins, par exemple, c'est quoi?
Alors, pour des pathologies urinaires, nous allons avoir un pilier qui va tout simplement être la cure de boisson, c'est-à-dire que l'ingestion d'eau thermale de façon à la fois très répétée mais très progressive durant le séjour va être un élément fondamental.
Mais c'est une eau particulière, Jean-Marie Cousin?
Oui, tout à fait. Donc, l'eau thermale de La Preste est une eau qui est bicarbonatée sodique, carbogazeuse, qui est riche en silice et qui a des propriétés bactéricides, notamment, d'où son effet très, très positif sur toutes les pathologies, notamment, telles que la cystite, la prostatite ou les infections urinaires chroniques. Cette prise de boisson va être complétée de soins qui seront des soins très spécifiques pour ces pathologies comme l'entéroclise ou des douches périnéales, des soins qui sont, je dirais, pas forcément des plus sympathiques, et complétés enfin par des soins plus traditionnels en station thermale comme des bains, des douches ou des applications de boue, mais qui vont se faire souvent au niveau de l'abdomen, dans des zones qui vont faciliter un certain nombre d'aspects fonctionnels au niveau urinaire, au niveau du transit.
Alors j'ai choisi ce thème, François, parce que, et on va voir un autre thème après, ce thème est important pour faire comprendre, François, qu'une eau a une spécificité moléculaire et en fonction de cette spécificité et de sa minéralité, on est en mesure d'avoir une efficacité thérapeutique. Et ça, c'est très important d'intégrer
ça. Et c'est pas de l'eau qu'on va trouver dans le commerce.
C'est pas de l'eau qu'on va trouver dans le commerce, c'est vraiment une eau qui a une valeur thérapeutique, d'accord, qui a été prouvée. Et le fait est, c'est que répéter ce genre de traitement au fil des années permet de gérer un problème chronique chez les patients qui souffrent et qui peuvent coûter une fortune à l'État parce que concrètement, ben, quand une pathologie ne se guérit pas foncièrement, eh bien on est parfois à se soigner toute une vie.
Jean-Marie, moi j'avais juste une petite question. Est-ce qu'on peut venir vous voir si on n'a pas de pathologie, simplement en préventif ou pour se faire du bien? Ça a du sens?
Oui, ça a énormément de sens, effectivement. La contrainte des 18 jours, des 3 semaines, est liée à la prise en charge éventuelle par l'assurance maladie. Pour autant, il est tout à fait possible de venir sur une durée plus courte et donc de venir à titre préventif, voire à titre avec un objectif médical. Mais si on n'a pas forcément la disponibilité pour 3 semaines, on peut effectivement passer une semaine, 2 semaines. On a des séjours, je dirais, à la carte qui permettent effectivement d'adapter en fonction à la fois des besoins et des pathologies.
Là, les objectifs, c'est quoi? C'est se purifier, c'est se détoxifier. Enfin, je ne sais pas si ce mot vous plaît, Christian.
Non, détoxifier est un terme qui
purifier peut-être.
C'est surtout organiser une redynamisation métabolique, c'est-à-dire une redynamisation de tous les tissus par l'activité physique, par la décontraction, par une augmentation de la fonction vasculaire.
C'est ça, Jean-Marie, on est d'accord, là, dans ce cas précis.
Alors, si vous voulez, c'est valable, cette approche-là est valable aussi bien dans le cadre de la cure médicalisée de 3 semaines que de la cure plus courte à titre préventif. C'est-à-dire qu'effectivement, nous attachons beaucoup d'importance à proposer au-delà des soins une approche globale du patient, avec des notions, comme ça a été évoqué par le docteur Reka, de nutrition, de retour à l'activité physique et d'éducation à la santé, c'est-à-dire sur les, je dirais, sur la prise en charge, sur la proactivité du patient tout simplement de l'individu par rapport à sa propre santé. Donc c'est valable aussi bien, je dirais, dans une dynamique de prévention, de simplement la volonté de prendre soin de soi au quotidien, ou de se soigner. Voilà. Donc c'est valable dans tous ces domaines.
On est urbain, on est stressé, on a beaucoup de travail, etc. Se faire une petite semaine comme ça de temps en temps, c'est vital, ça vaut vraiment le coup.
Bah écoutez, ça vaut vraiment le coup dans le sens où vous parliez tout à l'heure aussi du sommeil, hein, très simplement, très basiquement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour la santé. Faire des soins thermaux, vous vous retrouvez dans un environnement totalement nouveau qui coupe avec votre quotidien, dans un environnement chaud, dans un environnement humide, à faire des soins multiples durant la journée, vous avez déjà un effet immédiat sur la qualité du sommeil. Vous avez un effet immédiat sur la diminution des tensions, qu'elles soient simplement musculaires. Donc, après, chacun arrive avec ses problématiques, avec ses objectifs qui sont personnels. On peut avoir des objectifs de rééquilibrage alimentaire, on peut avoir des objectifs divers et variés. Et nos différents sites, nos 21 destinations, sont capables de répondre justement à des objectifs très variés.
Avec un point important par rapport à la question de François, si je puis me permettre, c'est que dans mon expérience, il est clair que 4 à 5 jours toutes les 6 semaines, c'est pas du luxe. Et 2-3 fois par an, être en mesure de s'offrir ce type de soins, c'est tout à fait exceptionnel.
Mais
et
là,
ça permet de vous réguler une année qui, sur 20 ans, vous évite des pathologies majeures.
Sans doute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le préventif. En revanche, là, ce n'est pas subventionné, ce type de choses.
Et là, c'est à la charge.
On est d'accord, hein, Jean-Marie.
C'est à la charge du patient.
Si on vient.
Oui, bien sûr, tout à fait. En dessous de 18 jours de soins, qui est la durée légale pour être pris en charge, on est sur quelque chose qui est, je dirais, financé par chacun d'entre nous. Mais on est sur
même les mutuelles ne donnent rien dans ce cas précis.
Non, ça peut arriver, mais c'est relativement rare. En général, la mutuelle contribue
à partir du 18e jour. Voilà, c'est ça.
Voilà. D'accord. Mais, je dirais une semaine de mini-cure thématique ou sur mesure en termes de soins, ça reste des budgets qui sont très, je dirais, très corrects, puisqu'on est de l'ordre, en fonction du nombre de jours que vous faites, d'une cinquantaine d'euros par jour de soins, pour 4 à 6 soins par jour. Donc c'est quelque chose qui reste tout à fait abordable.
Merci beaucoup Jean-Marie Cousin pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes directeur général de la chaîne thermale du Soleil. Voilà, on revient dans un instant.
Merci.
Merci. On aura Patricia dans une minute qui pratique régulièrement la natation et elle se pose des questions concernant le risque de transmission du Covid. C'est vrai que dans une piscine, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Et puis on évoquera cette fameuse mode des gaz hilarants qu'on trouve un peu partout maintenant et que les jeunes utilisent un peu trop, visiblement. On en parle avec Christian dans une minute. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite, on est là dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme. RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 8h47, le retour de ce week-end des experts, la forme et la santé avec Christian Ricca jusqu'à 9h. Et puis ensuite, ce sera Raphaël Grably pour la vie numérique, 9h-10h. Christian, dans un instant, on va parler de ce fameux gaz hilarant dont il est tendance de l'inhaler avec des conséquences, on le verra, dramatiques pour l'organisme. Hein. Vous allez tout nous expliquer dans une minute. Mais auparavant, c'est Patricia qui est avec nous au 32-16. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, docteur.
Bonjour
à tous.
Bonjour Patricia.
On vous écoute.
Bien, alors moi je vous appelle parce que je pense que vous allez pouvoir me répondre. Je fais de la piscine régulièrement, j'ai plus de 65 ans et le directeur m'a annoncé qu'il avait accepté de prendre quelques classes scolaires. Alors, avec ce qui se passe dans les écoles, j'aimerais savoir si nous on a un risque en se baignant ou en passant dans les douches ou n'importe.
Je vais vous expliquer. Le sujet que vous évoquez là, merci d'appeler, merci de témoigner pour cette question. C'est vraiment une question très importante. Oui, vous pouvez venir en piscine, dans l'eau, vous ne risquez rien. Cependant, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est de venir dans un horaire aménagé où vous seriez le matin, par exemple, avant l'arrivée des classes, si c'est possible. Je sais très bien que c'est un vœu pieux, parce que souvent, quand on voit les horaires d'ouverture des piscines, on a souvent une ligne d'eau pour soi, et puis on a des gamins qui sont dans l'eau de l'autre côté. Donc, c'est parfois, il y a le bruit, etc. Mais enfin, c'est l'ambiance du jeu et de la piscine. Donc, l'idée, c'est de trouver une ligne d'eau tôt le matin, quand vous êtes en mesure, ensuite, quand vous quittez l'eau de la piscine, quand vous quittez la piscine, eh bien, soit vous allez prendre une douche parce qu'il y a très peu de monde. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, très sincèrement, et que la piscine n'est pas très loin de chez vous, vous allez aménager un nettoyage de peau et une douche, je dirais, sérieuse chez vous. Voilà ce que j'aimerais vous conseiller. C'est plutôt l'environnement extérieur de l'eau qui peut être contaminant que l'eau elle-même. Maintenant, soyons précis. Si vous voyez que le responsable de la piscine vous annonce qu'il peut y avoir dans un bassin de 25 mètres, qu'il peut y avoir 25 enfants, là, c'est pas possible. D'accord ?
Oui.
Ça, non.
Donc, ce n'est pas le cas. Il a quand même séparé les enfants. Nos horaires, nous sommes que seuls et sur rendez-vous.
Eh ben voilà. Donc, vous avez là la procédure normale. Adultes, hein. Donc, madame, vous ne risquez rien. Seul petit point que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous rentrez dans la piscine, c'est douche obligatoire. Donc, vous y passez, forcément. Ensuite,
De toute façon, c'est pour tout le monde obligatoire.
Pour tout le monde, absolument. Ensuite, vous nagez. Ensuite, vous vous amusez. Et quand vous retournez chez vous, une petite douche d'eau tranquille, et puis vous allez passer le plus de temps possible pour une belle douche chez vous. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est qu'au niveau des pieds, vous ayez effectivement...
J'ai mes chaussures. Je suis la seule dans la piscine. J'ai mes chaussures.
Et un lavage de plantes des pieds particulièrement minutieux.
Alors moi, je prends la douche dans les cabines. Nous avons des cabines fermées, et notamment une cabine handicapée. Je suis désolée pour les handicapés, mais il n'y en a pas ce jour-là. Je prends leur cabine et je me lave à ce coup de savon et tout, pour être vraiment le plus nettoyé possible.
L'idée, c'est que le passage hors de l'eau doit être le plus court possible. Et le reste, tout va bien, puisqu'apparemment, vous êtes bien organisé.
Après, dans l'eau, l'eau est traitée.
Il n'y a aucun souci. Aucun souci.
Voilà.
Aucun souci, sauf si on est 150 dans la piscine, mais ça n'existe pas.
Et puis, Christian, rappelons quand même qu'on ne nage pas avec le masque.
Oui, absolument.
Enfin, ou alors le masque, un masque pour voir les poissons.
Ouais, très bien.
Dans la
piscine. Je dirais même que ce qui s'est passé cet été sur les plages, là, c'était pas sécure. En revanche, il y a un tel niveau de procédure dans les piscines que là, vous pouvez, madame, considérer que vous êtes particulièrement bien préservée.
Christian, votre coup de gueule de ce samedi matin?
C'est une remarque.
Cette nouvelle tendance.
C'est une tendance.
Qui est effrayante quand même.
Hein. La production m'a demandé de faire cela. Je vais être honnête avec moi-même. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je vois passer cette information. Et là, vraiment, le protoxyde d'azote qui est utilisé pour pousser ces crèmes alimentaires, quand on voit 199€, 600 cartouches vendues, 199€ pour les cuisiniers, eh bien, nous avons des enfants aujourd'hui qui mettent ce protoxyde d'azote dans des ballons baudruche, qui respire ce protoxyde d'azote, et cela provoque des désordres neurologiques majeurs, qui peuvent aller jusqu'à l'asphyxie, peuvent aller jusqu'à l'incohérence immunitaire, avec des destructions neurologiques. C'est extrêmement grave.
Ça étourdit, ça rend quoi?
Ça fait rigoler. Vous riez pendant 2-3 minutes en expiration forcée. Vous êtes à exciter votre système végétatif d'une façon extrêmement grave.
Et pourquoi on rit en respirant ce truc-là?
C'est dingue, quand même. Produit qui provoque chez vous une dégradation, je dirais, neurologique qui vous fait rire, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas, avec des destructions neurologiques au niveau vésical, des destructions neurologiques au niveau gonadique, destructions physiologiques au niveau...
Et alors, gonadique, c'est un peu plus bas.
C'est plus bas. Au niveau digestif, avec des troubles, avec des diarrhées et d'autres, et avec des troubles végétatifs qui durent. C'est-à-dire que, évidemment, j'aimerais dire à ses parents, c'est que vous ne vous rendez pas compte que l'enfant fait cela.
Mais la plupart du temps, les parents ne sont pas au courant.
Absolument. Et ça veut dire qu'il faut vraiment éduquer l'enfant, qu'il faut lui expliquer. Et il faut lui expliquer à quel âge? Dès l'âge de 8 ans. Parce que le gamin de 8 ans est au contact de l'enfant de 14 ans qui a la propension à attirer vers lui d'autres amis. Notamment dans les anniversaires. Dans les soirées pyjama avec les enfants de 5 ans, il n'y a pas de problème. Mais dans les soirées pyjama entre 9 et 14 ans, c'est là que tout commence. Mais le problème, c'est que ce sont des étudiants. Ce sont des enfants pré-adultes qui, entre 18 et 22 ans, commencent à réaliser cela d'une façon importante. Et le pire, c'est que c'est la porte d'entrée à d'autres addictions beaucoup plus dangereuses.
D'accord. Est-ce qu'on voit arriver en réanimation des enfants qui ont abusé de ce type de gaz?
Très peu, oui, mais on en voit. Mais le vrai souci, c'est qu'on voit surtout arriver des désordres neurologiques oculaires, donc ophtalmo, des désordres digestifs, des désordres vésicaux, des désordres cutanés. Et ce sont des désordres irréversible. C'est extrêmement grave, avec destruction neuronale.
Donc, ça fait
rigoler. Protoxyde d'azote, mesdames et messieurs, grave. Jamais chez vous.
Non, mais sincèrement, voilà. Hein, ne pas y toucher.
Ne pas y toucher, sauf Christian. Sur le plan alimentaire.
Sur le plan alimentaire.
Oui, parce que ce sont des cartouches que l'on met chez les professionnels pour pousser des mousses, etc.
Ah oui, d'accord.
Le problème, c'est que c'est là que les enfants les trouvent.
Oui, évidemment.
Donc, il faut les compter, mesdames et messieurs. Comptez les cartouches que vous achetez et regardez ce que vous faites avec. Ça permet de maîtriser la famille.
Christian, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais avec un immense plaisir.
8h-9h sur RMC, vous le savez, la forme et la santé.